pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Loi de simplification à chaque fois. C'est perdant pour l'écologie, perdant pour l'égalité, pour la justice sociale.
Charles Fournier, député écologiste, au sujet de la loi Duplon.
C'est terrible, coup sur coup, plusieurs grands reculs écologiques, et voire même on recule encore plus loin. Retour du cétamipride, donc un néonicotinoïde tueur d'abeilles. Grand retour en arrière, là. Donc on remet en cause des consensus scientifiques par populisme, pour soigner telle ou telle partie de son électorat. Franchement, c'est extrêmement inquiétant. C'est dramatique, ce type de texte de loi. Et effectivement, il y a eu un coup antidémocratique.
Macron et ses sbires n'en sont pas à leur premier déni de démocratie, ni de crime contre le vivant. On pourra fustiger Trump et sa haine de la science et de la raison, mais Macron et sa bande font exactement la même chose. Triste preuve en juin 2025 avec cette loi scélérate dite Duplon, dont Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire, va vous parler en seconde partie d'émission. Mais avant cela, retour en juillet 2024 au village de l'eau organisé par Bassine Non Merci, à Mel, dans le Poitou, avec le paysan député écologiste Benoît Biteau, à l'époque tout juste élu en Charente. On croyait alors encore à la possibilité d'un moratoire sur les méga-bassines. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et votre radio libre préférée. Lunaire loi Duplon, saturnisme pour la démocratie et le vivant. Bonjour Benoît.
Bonjour à tous.
Qui es-tu ?
Alors Benoît Biteau, moi je suis paysan bio, agronome de formation, j'ai été vice-président de la région Poitou-Charentes sur les sujets de l'agriculture, de la ruralité, de la pêche et des cultures marines, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. En 2019, j'ai été élu député européen et j'ai été premier vice-président de la commission agriculture et développement rural. Et depuis deux semaines maintenant, je suis député écologiste à l'Assemblée nationale pour la seconde circonscription de Charente-Maritime.
Il est beaucoup question de moratoire autour de grands travaux inutiles, hein, autoroutes absurdes, aéroports délirants, méga-bassines mortifères. Qu'est-ce que c'est qu'un moratoire ? C'est un travail législatif ? C'est une loi ?
C'est déjà, oui, effectivement, un décret de loi qui dit sur ces projets plutôt soutenus par les puissances publiques, de dire est-ce qu'on ne peut pas s'opposer pour regarder la pertinence de ces méga-projets, que ce soit des autoroutes, des méga-bassines sur le sujet de l'eau. Et donc c'est ça l'idée d'un moratoire, temps mort, on se pose et on repose les bases de ce qui doit correspondre à une gestion responsable de l'eau, qui correspond à un partage de l'eau, comme nous invite à le faire la réglementation, qu'elle soit européenne ou nationale. Si on prend la directive cadre européenne sur l'eau, qui dans son article 1 dit que l'eau est un commun, ça convoque au moins une dimension, c'est celle du partage. Quand on prend la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, en France, le premier article, l'eau est un commun et donc ça convoque aussi le partage. Et cette notion de partage est codifiée dans le code de l'environnement. Et cette dimension de partage, merci l'hélicoptère de bien brouiller.
Ils viennent te chercher, dépêche-toi voilà, de finir l'interview.
Ils essaient de me reconnaître avec la reconnaissance faciale. Le code de l'environnement, justement, a hiérarchisé ces usages de l'eau pour tenir la façon dont on doit la répartir pour que le partage soit équitable. Et que dit le code de l'environnement ? C'est d'abord satisfaire les usages de l'eau liée à la fourniture d'une eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi en deuxième priorité, satisfaire les besoins des milieux aquatiques, des milieux naturels, qui sont la condition indispensable pour satisfaire la première priorité, et aussi les conditions indispensables pour satisfaire la troisième priorité, qu'on appelle l'eau économique, pour laquelle l'agriculture est concernée. Et quand on fait des méga-bassines, on télescope la hiérarchie qui est posée dans le code de l'environnement. Donc le moratoire, c'est ça, c'est écouter ce que nous disent les scientifiques sur la façon dont on devra partager l'eau dans un contexte de dérèglement climatique, c'est regarder la législation et mettre les projets en conformité avec la législation, et puis l'angle mort, c'est l'argent public, c'est-à-dire que s'il y a autant de résistance, c'est qu'on est prêt à mettre beaucoup, beaucoup d'argent public sur des réponses qui ne correspondent pas aux attentes sociétales et citoyennes.
On précise, hein, cet hélicoptère est bleu marine, gendarmerie nationale.
C'est une autre façon d'utiliser l'argent public aussi que de déployer des moyens de surveillance à ce point pour un mouvement parfaitement pacifique. C'est vraiment un angle mort, ça, l'usage de l'argent public, j'insiste.
Ce moratoire, donc, c'est une proposition de loi. Comment ça se passe techniquement à l'Assemblée ?
C'est d'abord l'idée de stopper la façon dont on gère l'eau, dont on veut l'accaparer, dont on veut la répartir. Voilà, c'est deux notions complètement aux antipodes. Et à la lumière de ce moratoire, à la lumière de la consultation et des scientifiques et des citoyens et des juristes, poser effectivement une réglementation qu'on appelle un règlement d'intervention qui va permettre de savoir comment est-ce qu'on partage l'eau sur le territoire national.
Un groupe de députés propose un texte à l'Assemblée.
La conclusion du moratoire, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'on intègre les propositions, les trajectoires, les dynamiques que nous propose ce moratoire, et on le traduit en réglementation, et donc il faudra effectivement qu'un groupe de députés porte cette logique-là à l'Assemblée nationale, oui.
Tu le disais tout à l'heure avec Julien Leguet de Bassines Non Merci, votre méfiance et refus des méga-bassines datent du millénaire dernier.
Oui, les premiers moments où on a parlé des méga-bassines s'inscrivent dans un contexte où, à la fin des années 90, l'Union européenne a engagé un contentieux européen contre la France sur la façon dont on gère le Marais Poitevin. Et parmi les griefs qui ont conduit à ce contentieux européen, il y en avait un très fort sur la problématique de la gestion de l'eau qui télescopait plusieurs directives cadres européennes, la directive cadre européenne sur l'eau bien sûr, mais la directive cadre européenne sur l'eau souterraine, la directive cadre européenne stratégique sur les milieux marins. Enfin, l'eau était vraiment au centre de ce contentieux européen. Moi, j'ai été recruté à cette époque pour aider la France à sortir de ce contentieux européen. J'ai travaillé sur des réponses techniques, des réponses politiques pour sortir donc la France de ce contentieux européen. Et c'est à ce moment-là, quand on a consulté les acteurs de territoire, et notamment les agriculteurs, que les agriculteurs sont arrivés pour la première fois avec une stratégie de la gestion de l'eau basée sur la fabrication et la construction de ces méga-bassines. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à émettre de sévères réserves sur les réponses que proposaient ces méga-bassines, qui n'étaient pas les bonnes réponses par rapport à une gestion de l'eau qui permette de satisfaire tous les usages, y compris les usages agricoles. La solution apparaît quand même dans le document qui a été transmis à Bruxelles à la Commission européenne pour sortir du contentieux européen. C'est une réponse qui apparaît tout au bout d'un processus qui d'abord privilégie la restauration, la réparation du grand cycle de l'eau. La priorité des priorités, c'est celle-ci, c'est réparer le grand cycle de l'eau, qui lui-même a été déjà détruit par les mêmes agriculteurs qui veulent les méga-bassines aujourd'hui. Donc faisons les choses dans l'ordre, allons déjà explorer toutes les autres réponses, pourquoi pas imaginer des réponses basées sur le stockage, mais c'est vraiment à la marge. Et bien là, ce qu'on fait, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas avancé sur la réparation du grand cycle de l'eau, sur l'évolution des pratiques agricoles, sur la réparation de la fertilité des sols. On pose tout de suite la solution basée sur les méga-bassines, ce qui est complètement délirant et incohérent. L'angle mort dans tout ça, c'est qu'on engloutit beaucoup, beaucoup d'argent public pour une minorité d'agriculteurs. Seuls 6% des agriculteurs ont accès à l'eau d'irrigation, bassine ou pas bassine d'ailleurs. Avec les méga-bassines, on veut sanctuariser la possibilité pour ces 6% seulement d'agriculteurs de pouvoir confisquer une ressource qui, dans la loi, est incommun.
Cette affaire de méga-bassines porte d'entrée vers tout un système complètement mortifère où tout est imbriqué.
Oui, c'est le maillon d'une chaîne qui s'appuie d'ailleurs sur des mauvaises évaluations, des biais énormes qui voudraient nous faire croire que ces 6% d'agriculteurs qui ont accès à l'eau sont ceux qui portent la souveraineté alimentaire, par exemple. Piétinant, insultant, méprisant les 94% d'agriculteurs qui participent aussi à la souveraineté alimentaire, d'ailleurs nettement plus que ces 6%-là, qui n'ont pas accès à l'eau et qui, justement, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau, sont obligés d'être créatifs, inventifs, dans la façon d'imaginer leur métier d'agriculteur pour réussir à contribuer à la souveraineté alimentaire sans avoir recours à l'irrigation.
Puis aussi retrouver ce que les anciens nous ont légué, ces paysages de bocage.
Ils reviennent aux fondamentaux sur le rôle de l'arbre dans les paysages, mais pas seulement dans les paysages. Dans l'hébergement de la biodiversité, dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans l'hébergement d'auxiliaires de l'agriculture dont on a besoin pour s'affranchir des pesticides par exemple. Bien sûr qu'on revient à des fondamentaux autour d'une science qui est la vraie réponse alternative à l'utilisation des pesticides, des engrais de synthèse et à l'eau d'irrigation et donc aux méga-bassines. Cette science s'appelle l'agronomie. Il faut la redécouvrir. Elle a fait des avancées considérables depuis plusieurs décennies. Il faut qu'on s'appuie sur ces avancées considérables de l'agronomie pour montrer qu'une alternative existe, alors que les méga-bassines, c'est une pièce supplémentaire dans la fuite en avant où on refuse de revisiter les pratiques agricoles et donc on refuse de revenir sur les fondamentaux de l'agronomie et on veut continuer comme si tout allait bien avec ces logiques-là. Et pour que ça continue dans ce contexte de dérèglement climatique, utiliser de l'eau, la préempter, la confisquer avec le concours de l'argent public. Et je reviens sur le caractère méprisant et insultant des propos du président de la République, du ministre de l'Agriculture, du Premier ministre ou même du ministre de l'Écologie, quand il dit qu'il n'y a pas d'agriculture sans irrigation, il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans irrigation, sur les caractères insultants et méprisants de ces propos à l'égard des 94% d'agriculteurs qui ne sont pas concernés par l'irrigation et qui pourtant produisent parce qu'ils entretiennent la fertilité des sols, parce qu'ils commencent à redécouvrir l'intérêt de la présence des arbres, de haies, de la biodiversité. Enfin, voilà, c'est ça l'enjeu. Et je reviens sur l'angle mort qui tourne autour de ces méga-bassines, au-delà de la confiscation d'un commun qui s'appelle l'eau, c'est de la confiscation d'un autre commun, qui est l'argent public. C'est-à-dire que si je prends les chiffres de Poitou-Charentes, on a 200 projets de méga-bassines dans les cartons, qui, si on continue d'avancer comme elles sont imaginées aujourd'hui, va mobiliser 400 millions d'euros d'argent public. Une fois qu'on aura englouti ces 400 millions d'euros d'argent public, on n'aura favorisé que 6% de la population agricole dans des fausses bonnes solutions, dans des fausses bonnes réponses. Et on n'aura toujours pas restauré le grand cycle de l'eau, on n'aura toujours pas aménagé le territoire pour que le grand cycle de l'eau fonctionne. Et donc on pénalise les 94% d'agriculteurs dont je viens de parler. Alors que si on utilise ces 400 millions d'euros d'argent public pour réparer, restaurer le grand cycle de l'eau, tout le monde est bénéficiaire de ces logiques d'aménagement du territoire, au premier rang desquelles tous les agriculteurs. Donc le choix à faire, c'est est-ce qu'on continue de soutenir 6% des agriculteurs ou est-ce qu'on est sur des politiques publiques qui mobilisent beaucoup d'argent public, qui sont dénoncées par les citoyens qui sont ici pour dénoncer les méga-bassines, pour satisfaire tous les usages de l'eau, au premier rang desquels 100% des agriculteurs.
Tu as prononcé plusieurs fois le mot scientifique, c'est que cette pratique mortifère des méga-bassines ne repose sur absolument rien de fondé. Et en l'occurrence, la docteure en géologie Anne Morwen-Pastier a démonté un rapport du BRGM, un bureau des ressources géologiques et minières. Le BRGM a fini par dire qu'effectivement, cette histoire de méga-bassines, c'était des réponses inadaptées à une question mal posée.
Oui, c'est ça. Mais ce qui est grave, c'est la complicité de l'État. C'est-à-dire que cette étude qui a été produite par le BRGM posait une question, c'était très pervers. Et donc, il demandait au BRGM si les méga-bassines pouvaient améliorer la situation par rapport à la période 2000-2020. Heureusement que les méga-bassines pourraient améliorer cette période, puisque c'est la période la plus désastreuse qu'on ait connue sur le territoire en termes de gestion de l'eau. Est-ce que les méga-bassines vont améliorer la situation sur la période 2020-2050? Et c'est ça qui nous intéresse quand on est gestionnaire de l'eau, quand on est gestionnaire de l'argent public. Est-ce qu'en s'engageant sur cette trajectoire-là, on améliore la situation entre 2020 et 2050? Et ce que dit le BRGM, pour dénoncer la question mal posée et la réponse qu'ils ont pu faire, c'est qu'à aucun moment on leur a demandé de répondre à cette question de projection jusqu'en 2050 qui intègre le dérèglement climatique, parce que c'est ça qui n'est pas intégré. Et donc c'est la raison pour laquelle le BRGM a communiqué en disant que cette étude qui leur avait été commandée ne pouvait en aucun cas être le support de l'émergence des méga-bassines et donc de la pertinence de ces méga-bassines sur le marais Poitevin, parce que la question était mal posée et que la réponse qu'ils ont donnée était la réponse à cette question mal posée, mais que la vraie question à se poser, c'est est-ce que les méga-bassines améliorent la situation sur la période 2020-2050 en intégrant le dérèglement climatique. Et l'étude ne répond absolument pas à cette question et donc n'est pas pertinente pour qu'elle soit le support scientifique de l'émergence de ces méga-bassines. Et donc c'est de ça qu'il faut qu'on parle quand on parle de science, c'est-à-dire qu'il faut qu'on demande aux scientifiques qu'ils intègrent la projection climatique, trajectoire climatique jusqu'en 2050, et répondre dans ce contexte-là de savoir si, oui ou non, les méga-bassines sont les bonnes réponses. Et quand on leur pose la question comme ça, le BRGM et les autres, tous disent que c'est de la maladaptation et que ça ne répond pas aux enjeux de bonne gestion de l'eau dans cette configuration climatique.
Une autre chose qui avait beaucoup martelé, notamment par les membres de Bassines Non Merci, des soulèvements de la terre, etc., c'est qu'il ne s'agit pas de désigner les exploitants agricoles qui sont pris le doigt dans l'engrenage de l'endettement des pratiques, etc., chapeautées bien entendu par la FNSEA, un soi-disant syndicat agricole qui vise à la disparition du monde paysan. En aucun cas, il ne s'agit de dénoncer les gens qui ont ces pratiques-là comme des ennemis, mais plutôt comme des gens prisonniers d'un système mortifère dans lequel ils ont mis un doigt qui est en train de les bouffer jusqu'à l'os.
Enfin, moi, je suis très à l'aise avec ça, c'est-à-dire que j'ai précisément choisi de faire de la politique pour justement venir à leur secours. Je suis scientifique, ancien chercheur, qui a choisi de devenir paysan dans une forme de passage à l'acte et qui devient élu. Mais quand je deviens élu, ma démarche, c'est que je m'autorise à faire de la politique parce que dans mon parcours de scientifique, de chercheur et de paysan, j'ai identifié des réponses qui soient au rendez-vous de l'histoire sur le dérèglement climatique, sur l'effondrement de la biodiversité, la dégradation de notre santé, puisque ces pratiques agricoles impactent aussi notre santé, mais qui sont aussi des réponses aux difficultés économiques que rencontrent les agriculteurs. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'à la lumière de ces expériences réussies, des éclairages que nous donnent les scientifiques, on doit conduire des politiques publiques qui permettent d'accompagner la bifurcation agricole. Et parce qu'on accompagnera avec beaucoup d'efficacité cette bifurcation agricole, y compris les agriculteurs qui sont aujourd'hui dans cette sensation d'être piégés par un système qui les a complètement écrasés, si on met sur la table des politiques publiques et donc des enveloppes publiques à la hauteur des enjeux, on va aussi trouver des réponses économiques pour les aider à faire cette bifurcation. Donc moi, je suis à l'aise avec ça parce que je ne suis absolument pas contre les agriculteurs. Je m'autorise à faire de la politique pour essayer justement de les sauver de cette situation dans laquelle ils sont enlisés et de laquelle ils n'arrivent pas à se sortir parce que l'ornière est profonde en vérité.
Tu portes une petite cocarde là en tissu en forme de coquelicot avec marqué Stop Pesticides. Il y a les méga-bassines, mais en fait, il y a toutes les pratiques mortifères qui vont avec. Il y a plusieurs années de ça, j'ai accompagné au tribunal de Tours des faucheurs volontaires d'OGM. Il y avait eu une contre-manifestation organisée par les FNSEA. Et j'avais tendu ce même micro à un exploitant agricole qui m'avait dit le glyphosate, c'est de la chimie fine. Bah, moi, c'est pareil, j'ai fait un cancer. Et ben, on m'a soigné de mon cancer avec de la chimie fine. Et à ce moment-là, bon, il y a un responsable de la FNSEA qui a surgi, qui lui a dit t'arrêtes de parler dans le micro, laisse-moi faire. Et le type venait de me dire qu'il utilise des pesticides et qu'il s'est tapé un cancer.
Moi qui sors d'un mandat de député européen, on a eu une très belle présentation de la Commission européenne elle-même qui nous explique que aujourd'hui, le principal risque au travail des agriculteurs, c'est la manipulation des pesticides. C'est ce qui les rend malades, c'est ce qui les tue bien avant des accidents du travail, parfois sévères. Bien sûr que le type, quelque part, il est dans l'aveu que utiliser des pesticides, ça les rend malades.
Je m'excuse au passage, j'ai l'impression de me moquer de ce pauvre homme. J'ai de l'empathie pour ce type.
Il ne faut pas se moquer d'eux, il faut juste leur proposer autre chose. C'est parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient malades et pour certains qui ont perdu la vie que je me suis aussi engagé en politique et dans le mouvement Nous voulons des coquelicots pour sortir des pesticides parce que les premiers qu'on sauve dans cette logique-là, c'est les agriculteurs eux-mêmes. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut que quand on est élu, on construise des politiques publiques qui les aident à se sortir de là, à s'arracher de là, tout en respectant leur volonté d'un métier qui souvent les passionne, qui est le métier d'agriculteur.
Et on peut faire autrement.
Et la caricature qu'on veut nous faire porter, c'est qu'on est des nostalgiques d'une agriculture qui n'existe plus, d'une agriculture pénible. On nous traite d'amiches, on nous traite d'escrolos, on nous traite de Khmer Vert. En vérité, quand on regarde bien les agriculteurs qui ont endossé ces pratiques agricoles aujourd'hui, c'est des grands spécialistes, c'est des gens plutôt doués, qui ne sont pas nostalgiques d'une période où le travail est extrêmement pénible, qui utilisent souvent des technologies très avancées. D'ailleurs, les gens qui viennent visiter ma ferme, c'est le premier truc qui les scotche, parce qu'ils pensent que je suis un nostalgique d'une agriculture où on fait travailler des chevaux et on se pète le dos au bout d'un manche de bêche. Et en vérité, ce qu'ils constatent, c'est que le niveau de technologie des outils que j'utilise permet de reproduire le bon sens paysan, des pratiques agronomiques que pratiquait mon grand-père, avec une technologie qui, justement, précisément, efface la pénibilité du travail. Donc, essayons de regarder avec objectivité ce que porte l'agronomie contemporaine, qui est une vraie, vraie réponse pour construire des alternatives aux pesticides, aux engrais de synthèse et aux méga-bassines. Je viens d'être élu député à l'Assemblée nationale. Cette semaine, c'était l'installation de l'Assemblée nationale et que vendredi, on votait sur la présidence de l'Assemblée nationale et que samedi, on votait sur les présidences de commission et que j'étais où je dois être. Ma place était à l'Assemblée nationale pour la mise en place de la gouvernance de cette nouvelle mandature. Contrairement au Rassemblement national qui était particulièrement absent de ses votes, au sein du Nouveau Populaire, tous les élus étaient très attentifs à ce qui se passait ici en Poitou-Charentes, en périphérie du village de l'eau. Alors bien sûr les activités du village de l'eau, mais aussi tout ce qui se passait en périphérie, et notamment la manif de Saint-Sauvent et la manif d'hier à La Rochelle, bien entendu.
La manifestation du vendredi, les forces que j'ose à peine qualifier de l'ordre en cette circonstance ont mis le feu à un champ.
Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais On a un déploiement assez incroyable des forces de l'ordre, des outils utilisés par les forces de l'ordre qui conduisent à des incidents de cet ordre-là qui sont quand même assez inquiétants. Ne pas faire le lien entre le fait qu'on balance des projectiles explosifs et la présence d'andins de paille dans un champ fraîchement moissonné.
Sous 30 degrés.
Et que ça pouvait prendre feu, c'est tout au moins un manque de discernement.
Vous êtes toujours en juillet 2024, souvenez-vous du sursaut antifasciste et républicain des législatives anticipées après que Macron ait dissous l'Assemblée. À l'époque, on aurait pu espérer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et un ministre intelligent à l'agriculture, comme le paysan député écologiste de Charente, Benoît Biteau.
Au regard des forces en présence, puisque personne n'a la majorité absolue, c'est ça tout le monde le sait, et des difficultés qu'on avait justement dans cette configuration où personne n'a la majorité absolue d'essayer malgré tout de verrouiller un peu la gouvernance de cette Assemblée nationale. Effectivement, on n'a pas gagné le perchoir, mais derrière, on a eu quand même l'élection du bureau de cette Assemblée nationale où il y a 22 membres et 12 sont membres du nouveau Front populaire. C'est-à-dire que alors qu'on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on a quand même réussi à obtenir la majorité absolue du nouveau Front populaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on a une capacité de blocage de la droite et de l'extrême droite par la présence de 12 membres sur 22 au bureau de cette Assemblée nationale. Donc c'est pas mince.
Le bureau, il choisit les questions qui sont posées, c'est ça ?
Le bureau, c'est ça. Il traite des sujets à l'ordre du jour. Il traite des sanctions qu'on peut donner à certains députés et ceux qui viennent de passer 2 ans de mandat à la NUPES savent que ce bureau n'a pas été avare de sanctions contre les élus du nouveau Front populaire. Donc là, c'est terminé cette période-là. C'est-à-dire que même si on a un groupe qui ne constitue pas la majorité absolue, dans la gouvernance de l'Assemblée nationale, on a la majorité absolue. C'est quand même une victoire dont on peut se satisfaire dans la répartition des postes, dans les commissions thématiques. On a réussi à arracher des présidences, des vice-présidences et des postes de secrétaire. Et donc, on a une place importante dans la gouvernance des commissions thématiques. Et puis, il faut regarder quand même un constat qui, moi, me satisfait beaucoup. C'est que le Rassemblement national n'a décroché aucun poste, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les commissions thématiques, même pas un poste de secrétaire dans une commission thématique, c'est-à-dire qu'ils ont 0 siège. Et donc, ce pourquoi les électeurs nous ont fait confiance, de ce barrage républicain pour empêcher le Rassemblement national de prendre le pouvoir, on a été au rendez-vous de cette attente des citoyens. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'a aucun pouvoir à l'Assemblée nationale. Ce qui s'est passé sur ces 3 derniers scrutins, c'est un message d'alerte, de rejet, de détresse, de colère, je ne sais pas comment il faut le qualifier, à l'élection européenne qui porte le Rassemblement national très haut. Un deuxième message du même tonneau au premier tour de l'élection législative, où encore une fois, c'est inédit, des candidats Rassemblement national qualifiés un peu partout en France. Et le deuxième tour de cette élection législative, où on a une mobilisation citoyenne et finalement, un peuple français qui se révèle attaché aux valeurs de la République et qui fait front républicain pour que le Rassemblement national, qui était annoncé comme la première force politique en France, ne se retrouve que la troisième. Et on a été, je trouve, digne de cette demande des Français qui réclament le respect des valeurs de la République, de l'institution républicaine, en faisant obstacle au Rassemblement national et en leur proposant absolument aucun poste. Et ça, c'est le travail du nouveau Front populaire. L'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national n'a aucun rôle à jouer dans cette République. Et je crois qu'on est digne du message que nous avons envoyé les citoyens à ce deuxième tour des législatives. On a construit le nouveau Front populaire à 4 formations politiques. Il faut que ces 4 formations politiques constituent un bloc politique soudé, fort, que ces 4 formations politiques, sans se désunir, sans s'éparpiller, réussissent à désigner un gouvernement à proposer au président de la République. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine me laisse espérer que ce chemin est encore possible.
Alors il y aura évidemment la grosse échéance de la présidentielle de 2027, avant ça, des municipales.
Oui, les municipales où ça va être une nouvelle évaluation de notre capacité à probablement faire obstacle au Rassemblement national. Le Rassemblement national est déjà en campagne sur cette échéance-là. Il commence déjà à recruter des potentiels candidats. Il commence déjà à former des potentiels maires, y compris sur des grandes villes. Et donc il faut qu'on, nous aussi, on soit en mesure de préserver les villes qu'on a su gagner. Et nous, les écologistes, on a gagné des très très grandes villes. Hein. On a gagné Lyon, on a gagné Marseille, on a gagné Bordeaux, Poitiers. Donc il va falloir qu'on soit à la hauteur de ces victoires-là. On a failli gagner Lille, ça s'est joué à quelques dizaines de voix. Donc il faut qu'on soit en capacité de préserver ces grandes villes qui ont été gagnées par les écologistes et qu'on accompagne les autres villes gagnées par une des quatre formations du Nouveau Front Populaire à préserver leur mairie. Et donc il faut qu'on s'engage sur le boulot dès maintenant, mais la campagne électorale débute le soir de l'élection, donc il faut qu'on reparte en campagne dès maintenant.
Onze mois après cette conversation avec Benoît Biteau, vous voici donc en juin 2025. Le despote Macron enfonce la France dans l'autoritarisme et la guerre. Nouveau coup de poignard dans le dos, une mortifère loi Duplomb dont le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, va maintenant vous parler. Bonjour Charles.
Salut. Ça va ?
Ben oui, et toi ?
J'arrive tout juste de l'Assemblée nationale, donc là je suis un peu fatigué, mais ouais, on vient de passer une drôle de période, mais on va en parler.
Avant d'aller plus loin, rappelons que Charles Fournier s'est vu reprocher par d'autres députés sa présence à la première manifestation interdite de Sainte-Soline.
J'y étais à l'invitation notamment du collectif Bassines Non Merci, de paysans. Et avant qu'on aille là où il y avait les bassines, enfin en construction, on était sur un terrain privé. Et donc la réunion qui a eu lieu sur le terrain privé, elle n'était pas concernée par l'interdiction. Ça aussi, ça a été assez manipulé. Ensuite, c'est le mouvement fait vers l'endroit où se trouvaient les bassines qui, lui, était interdit. Sans qu'il y ait de raison très légitime à ce moment-là. Pour les interdire, c'était simplement pour organiser un peu le chaos. Voilà, et on a provoqué le chaos.
Le gouvernement.
Oui, le gouvernement, pardon, oui. Très clairement. Oui. Gérard Darmanin, voilà. J'ai été là-bas sur place, je vais le dire, pour être témoin de ce qui se passe. Et c'est aussi notre responsabilité. Comme, je vais le dire, je vais dans des prisons. Parce que je suis les yeux de ce qui se passe dans la prison. Parce que j'ai le droit d'y rentrer. Moi, j'ai le droit d'aller à des endroits pour être témoin de ce qui peut se passer. Et pour pouvoir intervenir. Quand je vais dans le collège Michelet, que le collectif Pas d'enfants à la rue est rentré dedans pour mettre à l'abri des enfants. Ils n'ont pas le droit de rentrer, mais ils l'ont fait comme cri d'alerte. Moi, j'y vais, je rentre dans le collège. Je n'ai pas le droit à ce moment-là non plus dans ces cas-là. Mais j'y suis parce que c'est mon rôle. Et ce soir-là, j'ai servi de médiateur et j'ai permis à ce que les 50 personnes soient hébergées, que le collectif s'en aille. Et d'ailleurs, je ne comprends absolument pas la plainte qui a été déposée contre les deux enseignantes. Parce qu'à minuit, tout était terminé. Il n'y a eu aucun dégât. Tout s'est très bien passé. Et ils savent très bien parce que j'ai passé moi, ma soirée, à faire en sorte que ça se passe bien. Donc je ne comprends pas du tout qu'on s'en prenne à deux enseignantes qui font preuve de solidarité. Mais je le dis, moi, j'étais sur place. D'abord parce qu'il y avait cette rencontre avec tout le monde. Il y avait les syndicats. Il y avait plein de gens, des familles. Voilà, j'étais sur place pour ça. Et puis après, parce qu'effectivement, depuis des années, on s'oppose à ce système-là qui est aberrant. Et je voulais m'exprimer aussi là-dessus. Oui, on me l'a reproché. D'ailleurs, il y a eu même. Un député de la région centre qui a écrit à la présidente de l'Assemblée nationale pour que nous soyons sanctionnés. Complètement délirant. On ne peut être sanctionné que pour ce qu'on fait dans l'Assemblée nationale et pas à l'extérieur. Même ces règles-là, elles ne sont plus respectées. C'était pendant les questions au gouvernement. Il ne sait pas pourquoi sur mon rang, il n'y avait personne à ce moment-là. Et j'avais vraiment l'impression d'être mis au banc. Alors que honnêtement, voilà, j'ai juste été défendre une question qui me paraît absolument vitale, qui est la question du partage de l'eau. Voilà. Bon, il y a eu la petite séquence, ma voiture qui a été taguée, donc ça avait fait un peu le tour de la terre. Okay. J'ai transporté d'un point à un autre Yannick Jadot, qui était là sur place, comme il est là depuis des années et des années. Hein. On n'est pas au raccord totalement sur la ligne politique. Par contre, sur le combat sur l'eau, il est là depuis des années, personne ne peut lui dire quoi que ce soit là-dessus. Et donc du coup, comme des gens avaient vu que j'avais transporté ma voiture, pas très malin, ils sont venus taguer, c'est une voiture de location, en marquant crevure. Et donc j'ai dû gratter ma voiture à la carte vitale parce que sinon je ne pouvais pas partir. Et BFM, ils m'ont interviewé en disant « Monsieur Fournier, est-ce que c'est vous qui êtes ciblé ?» Donc je leur dis « Bah non, c'est bien que ce n'est pas moi qui est ciblé, moi je suis un gauchiste, vous avez bien compris que c'était Yannick Jadot. » Mais je rajoute derrière, mais que ce soit lui ou moi, je trouve ça pas bien. Parce qu'en vrai, on vient là s'opposer à ces projets ensemble. Pourquoi ça ? Ils ont coupé cette partie-là. Et ma réaction a été pendant deux jours de dire « Non mais moi je vous parlerai pas de ma voiture. » Je veux vous parler de l'eau. Soit vous acceptez que je parle de l'eau et je vous réponde, soit vous voulez pas que je parle de l'eau et donc moi ma voiture c'est pas le sujet quoi. Voilà. Bref, je raconte ça pour dire l'ambiance construite autour de ça pour décrédibiliser toute action Alors que voilà, les collectifs qui sont engagés sur ces questions-là, c'est la terre qui se soulève. Après, moi, mon rôle à moi, je ne suis pas le militant qui est dans ces collectifs-là. Je suis le porte-voix de combat, de lutte, de transformation que je veux voir aboutir. C'est mon rôle. Je fais de la bataille culturelle. Quand je suis là, je suis aussi l'écho possible de ce combat-là. Maintenant, mon rôle n'est pas le même que celui des militants. Je l'ai fait à d'autres moments. Mais quand je suis dans ma position de député, c'est à la fois pour être témoin, pour être porte-voix, pour être médiateur quand ça ne se passe pas bien, parce que je n'ai pas envie que ça ne se passe pas bien. Quand les enseignants ont commencé à être délogés du collège et qu'il y avait de la tension, j'ai appelé le préfet, j'irai dire à la police de se tranquilliser, aller voir le principal du collège pour que, pareil, demain ça va bien se passer, on va trouver des solutions. Mais par contre, il faut les héberger. Et globalement, on a réussi. Donc ça veut dire quand même que là, dans ces situations-là, moi je pense que je devrais être remercié par la préfecture, par le ministre de l'Intérieur, pour avoir évité un truc qui tournait mal. Dans des moments comme ça, ben, la présence d'un député peut être extrêmement utile pour éviter des choses qui se passent mal. Voilà. Évidemment, quand il y a une écharpe, de part et d'autre, les réactions ne seront pas exactement les mêmes. Alors, des fois, elles peuvent être mauvaises de part et d'autre. Voilà. Mais globalement, quand il y a l'écharpe, on se dit que voilà, on va s'en prendre d'une certaine manière à la République encore plus si on laisse faire. Je ne regrette pas d'y avoir été. Je pense que le rapport de force, parfois, se joue aussi par la capacité d'expression, de manifestation. Moi, mon rôle, c'est aussi d'être témoin de ça.
À l'instant, on entendait ton collègue et camarade et ami, Benoît Biteau, député de Charente, paysan, ancien élu européen et fraîchement élu en cet été 2024 en Charente. Au moment où on se parle aujourd'hui, nous sommes 11 mois plus tard. Souvenez-vous, au printemps 2024, Macron dissout l'Assemblée. Les sondages nous annoncent Bardella à Matignon et le Front National. Je suis un vieux Charles, donc je dis toujours Front National.
Moi aussi, je dis Front National. Rien n'a changé. Eux se sont ripollinés, mais en fait, là, ils viennent de se faire encore prendre les doigts dans le pot de confiture. 9 députés qui sont sur une boucle où il y a des propos racistes permanents. C'est toujours le Front National.
La vieillesse emmerde le Front National et une partie de la jeunesse c'est de 2025 ça. Aussi. Bref, climat d'il y a un an, on a eu très peur. Et puis ce sursaut antifasciste et républicain qui fait qu'il y a une vague et le nouveau Front populaire. Et moi, c'est avec beaucoup d'émotion que j'entends Benoît Biteau au village de l'eau. Cet homme n'est pas un lapro de 6 semaines, ni un novice, ni un naïf. On est quand même passé par des émotions et des espoirs, peut-être même d'avoir un premier ministre du nouveau Front populaire, tout en se disant que ça sentait quand même très fort le déni de démocratie, l'autoritarisme et les trucs à la Napoléon III qu'on a donc aujourd'hui. Ton camarade Benoît Biteau.
Déjà, coucou Benoît, parce que tu écouteras sans doute cette émission comme moi, je t'ai écouté dans l'émission, donc je suis content de parler après toi, avec toi de manière indirecte. On le fait souvent à l'Assemblée nationale, mais je sais le combat que tu mènes depuis longtemps. Et puis, tu es un de ceux à qui on ne peut pas dire « mais vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas agriculteur ». Lui, il est paysan depuis longtemps et une partie de ses enfants vont l'être, reprennent la ferme ou participent à sa ferme. C'est un paysan bio. Il a plein de choses à raconter sur le sujet, donc il a une certaine légitimité à en parler. Et effectivement, moi, je me rappelle de cet enthousiasme. Je l'ai vécu avec lui. On pouvait même imaginer Benoît Biteau, ministre de l'Agriculture. Tout ce qu'on raconte depuis des années sur un autre modèle agricole, sur l'agroécologie, le retour des paysans et non pas des exploitants agricoles, tout ça semblait possible. Et puis, patatras, il n'y a pas eu de respect des décisions qui ont été prises par les Français, puisqu'ils avaient placé le nouveau Front populaire en tête de l'élection. Ça ne veut pas dire qu'on avait gagné, mais on avait une légitimité à essayer de construire un gouvernement. On ne nous a pas laissé faire. Et depuis, on va de mal en pis, de situation ubuesque en situation ubuesque, de Premier ministre illégitime en Premier ministre illégitime. Je pense que le dernier a atteint quand même le sommet de l'illégitimité, parce que non seulement... plus aucune majorité qui tienne, le centre, la droite ensemble, mais en fait finalement ils sont ensemble de rien du tout, ils sont des accords très très réguliers où ils se retrouvent que sur des choses mais qui relèveraient presque du Rassemblement et du Front National plutôt que des politiques qu'ils ont pu porter par le passé. Et puis en plus lui, à les affaires Betaram et tout le reste, ça fait quand même un peu lourd. Donc on est dans ce contexte-là, donc c'est sûr que là c'est dur. Et puis je rajoute évidemment que le NFP, la promesse initiale à ce jour, elle n'est pas tenue. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, parce que je vais lundi, par exemple, à Montargis. À Montargis, il y a toutes les extrêmes droites d'Europe qui se réunissent. Orban, il y a Matteo Salvini, il y a Le Pen qui se rassemblent à Montargis. Et il y a un grand rassemblement par ailleurs, et il y a tout le monde. Il y a le NPA, toute la gauche, moi je m'exprimerai pour les écologistes. Edoui Plenel aussi, de la société civile. Il y a Sophie Binet de la CGT qui est là. Marie-Lise Léon de la CFDT, il y a tout le monde. Quand on sent le brin se rapprocher, bah évidemment, on s'organise pour répondre. Si on est capable de moments unitaires comme ça, alors on sera capable de nous retrouver et d'être capable de faire ensemble ce qui n'a pas pu être fait en juillet 2024 quand l'enthousiasme était au rendez-vous. On avait tellement peur de Bardella à Matignon qu'évidemment, il y avait de l'enthousiasme. On a été douchés derrière. Mais les choses continuent de se construire. Et quand je vois, d'ailleurs, sur des combats contre cette fameuse loi Duplomb dont on va parler, je vois bien qu'on est alignés. Pas tout le monde, mais je sais qu'on peut l'être sur un sujet comme ça. Après, chacun joue des partitions électorales ou électoralistes. Moi, ça me fatigue un peu par moment. Mais sur le fond, sur un texte comme ça, la gauche, elle est alignée. Peut-être certains calculent, mais sur le fond, on est alignés pour refuser le retour des néonicotinoïdes, pour refuser des méga-bassines, ce qu'il y a dans cette fameuse loi.
Dont on va parler.
Ouais.
Le nouveau Front populaire, là, en ce printemps 2025, ça existe toujours ?
En tout cas, je pense que dans la tête des gens, ça existe encore. Il y a de la déception, hein. Mais je sais que l'aspiration au nouveau Front populaire, elle est là. L'aspiration à l'unité, elle est là. Ça reste mon guide. Les gens attendent ça de nous. Il faut être à cet endroit. Maintenant, il ne se réunit pas. Les chefs ne se parlent presque plus ou par voie de presse interposée. Les calculs sur les prochaines échéances sont à l'heure. Le grand jeu du moment, c'est de savoir qui sera le responsable de la rupture. Et ça, ça fatigue tout le monde. Et moi, le premier. Ce à quoi je crois, c'est qu'il y a des initiatives qui arrivent. Il y a celle de Lucie Castet. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tout me va dès qu'il y a des initiatives pour qu'on se parle. Mais qu'on se parle sans volonté d'hégémonie de personne sur personne. Voilà. Et je serais dans un parti qui serait en théorie le plus fort. Parce qu'en fait, en vrai, personne n'est vraiment fort dans cette affaire-là. Mais je dirais la même chose que ce que je dis là. Parce que l'heure peut être qu'à l'unité. Et l'unité des partis et de la société civile. La seule manière de donner de l'espoir, c'est quand on porte l'unité, un, et deux, quand cette unité raconte quelque chose aux gens. Quand elle porte un espoir, quand elle trace un chemin. Voilà, on peut et on aura, et il faut avoir des désaccords, parce que ce n'est pas une unité qui fait disparaître les uns et les autres. C'est une capacité à converger, à dialoguer, à prendre des décisions, à trouver les meilleurs compromis. C'est ça, la vie. Donc, ça ne peut pas être juste, il y en a un qui a raison et il y a une ligne, il y a une seule ligne qui est bonne et tous les autres n'existent plus. Mais par contre, il faut les conditions de ce respect, le cadre où on se parle régulièrement. Et ça, malheureusement, c'est ça qui n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Mais il y a des gens qui y œuvrent. Il y a plein de gens qui y travaillent à leur manière. Par contre, voilà, je ne cherche pas dans ce moment à dire c'est qui est responsable de cette situation. Collectivement, on l'est. Et collectivement, il faut sortir par le haut. Et par le haut, c'est donner une perspective pour 2027.
Juin 2025, douche froide et yo-yo émotionnel. Après quelques bonnes nouvelles, comme l'arrêt du chantier de l'inutile autoroute A69, l'interdiction de bassines autour de Sainte-Soline, patatras. On nous annonce la reprise du chantier de la 69 et cette loi Duplomb qui prévoit des méga-bassines en pagaille, le retour de pesticides cancérigènes interdits depuis 2018 et une cohorte d'autres menaces mortelles. Charles Fournier.
Forcément, c'est dur, mais je voudrais quand même tirer le fil des bonnes nouvelles, en tout cas des nouvelles qui peuvent rassurer, c'est-à-dire qu'il y a encore un état de droit qui peut fonctionner, qui est attaqué de toutes parts, mais qui peut fonctionner parce que les nouvelles que tu donnais, c'est des nouvelles d'une justice indépendante qui a pris des décisions malgré les pressions multiples auxquelles elle avait à faire face. Là, Thomas Braille, qui était la figure de la lutte contre la 69, l'écureuil, là, celui qui monte dans les arbres et qui s'attache dans les arbres, vient d'être relaxé aussi. Et son combat a été considéré comme légitime. Yannick Jadot, qui a été attaqué par Total, vient d'être relaxé dans un procès face à Total. Il y a des choses qui fonctionnent et il faut qu'on le garde à l'esprit parce que sinon on va se sentir encore plus petit dans la lutte. Non, là, ce qui se joue, c'est terrible parce que effectivement, on a eu coup sur coup plusieurs grands reculs écologiques sur des choix qui avaient été faits, des décisions qui avaient été prises, des décisions qui avaient été poussées par la société. Emmanuel Macron, dans son premier mandat, avait fait avancer quelques sujets sur l'écologie, pas de manière satisfaisante, mais un peu. Sauf que là, dans le deuxième mandat, il défait tout ce qui a été fait. Et voire même, on recule encore plus loin que ce qui existait avant qu'il soit président de la République. Le retour des néonicotinoïdes, c'est un grand retour en arrière, là, parce que c'était quand même un sujet qui était sur la table dès le début de son premier mandat. Et là, on retourne à la case départ.
Donc ça, c'est des molécules...
Alors, les néonicotinoïdes, c'est ce qu'on appelle les tueurs d'abeilles.
Voilà, c'est ça qu'il faut que les abeilles s'égarent. Et
elles ne reviennent pas.
Donc ça veut dire plus de fruits, plus de légumes.
La catastrophe, c'est ça. Et les abeilles, elles ont un rôle majeur dans la pollinisation. Et que là, on prend le risque de ne plus avoir d'abeilles. Et déjà que les populations ont baissé de manière sévère, cancer. Donc le retour de ce néonicotinoïde est vraiment une très très mauvaise nouvelle, avec des arguments faux qui ont été donnés par la ministre dans l'hémicycle, répétés par des sénateurs du coin, qui expliquaient que finalement il y en avait dans les colliers antipuces des chats et des chiens, et qu'il y en avait dans les bombes aérosols ou je ne sais pas quoi antipuces, et que du coup bah, quand même c'était fou, on l'acceptait à la maison, mais qu'on ne l'acceptait pas pour les agriculteurs. Mais en fait c'est faux, il n'y en a pas dedans. Ça a été démonté cette fake news, mais ça a été dit par la ministre dans l'hémicycle. On est dans l'ère de la post-vérité, c'est ça qui est absolument dingue, c'est-à-dire que c'est anti-science en fait. Souvent le petit message que fait circuler la droite, l'extrême droite et le centre maintenant, c'est de dire les écologistes ont du mal avec la science. Mais au contraire, nous on est basé sur la science, on écoute la science. Évidemment qu'il y a des controverses dans la science, mais souvent la science arrive quand même à construire des consensus. Il y a consensus sur les pesticides. Et donc on remet en cause des consensus scientifiques par populisme, simplement pour soigner telle ou telle partie de son électorat. Franchement, c'est extrêmement inquiétant. Donc du coup, les grands reculs, hein, on parle de la loi du plomb, mais on peut parler aussi du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui a été quasiment flingué. Des zones à faible émission, c'est une erreur de dire on supprime mais on ne propose rien à la place. Elles étaient mal faites, mais il y avait largement les moyens de les améliorer. Moi, j'ai fait une proposition de loi là, que j'avais déposée pour les améliorer. C'est vraiment possible. Parce que l'argument de dire les pauvres, ils vont devoir changer de voiture, mais on ne les aide pas, c'est vrai. Mais à l'inverse, les 40 000 morts prématurées en France liées à la qualité de l'air, c'est qui ? Ben, ce sont les pauvres. Parce que c'est eux qui vivent dans les zones les plus exposées aux microparticules, au protoxyde d'azote. C'est eux qui sont les plus soumis à avoir justement des véhicules de mauvaise qualité. Et donc du coup, cet argument, il se retourne. Ne rien faire, c'est une catastrophe. Et voilà, moi je trouve ça irresponsable. Donc je pense qu'il fallait les améliorer et pas les supprimer. En une semaine, on a eu ça, mais il y a une loi qui s'appelle la loi Grémillet, c'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. Comme le gouvernement n'a pas voulu faire de loi de programmation énergétique, alors qu'il est tenu de le faire, il n'en a pas fait. Ça s'appelle une loi programmation énergie-climat, qui était obligatoire. Comme il ne pensait pas avoir de majorité, bah, du coup, il n'a pas fait de loi. Et bien là, on se retrouve avec une proposition de loi qui vient d'un sénateur, qui est une caricature. Ils racontent n'importe quoi dedans. Ils disent qu'on va faire un nombre d'EPR, mais impossible, selon ce qu'ils veulent inscrire dans ce texte de loi. Et donc là, c'est la débandade. C'est pas sérieux. Il n'y a pas d'étude d'impact. Il n'y a aucun élément sérieux. Je suis inquiet de ça. Je suis inquiet de ce climat d'impuissance, mais qui se traduit par des actes d'autoritarisme. Comme on est impuissant, et ben du coup, on y va, et puis on y va à fond. Et on y va à fond, et finalement, on laisse passer, on se dit, bah, c'est pas grave, on corrigera en commission mixte paritaire, ou alors le Conseil constitutionnel reviendra dessus. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire la loi, c'est pas sérieux.
Alors Charles, qu'est-ce que c'est que cette loi Duplomb dans l'aile du vivant humain et non humain ?
D'abord, c'est un texte qui a été déposé par un sénateur qui s'appelle Duplomb, qui est un sénateur, agriculteur, FNSEA, qui a tenu la plume du texte. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce texte qui visait à simplifier la vie des agriculteurs, à chaque fois qu'il y a le mot simplification, c'est un mot du libéralisme, c'est un mot qui masque les reculs en arrière. 15 ans de loi de simplification, 10 grands reculs écologiques. C'est l'association France Nature Environnement qui a fait un super dossier là-dessus, qui montre comment les lois de simplification, à chaque fois, c'est perdant pour l'écologie, perdant pour l'égalité, pour la justice sociale. Et donc, il a fait une loi tout azimut où on revient sur quelque chose qui avait été acté, qui était la séparation de ce qu'on appelle le conseil et la vente. Celui qui conseille les agriculteurs n'est pas celui qui vend les pesticides. Bah là, terminé, on revient à celui qui conseille, c'est celui qui vend. Autant dire que le paysan, le gars qui vient lui expliquer comment il faut faire avancer son exploitation, etc., il faut quand même que tu mettes un peu de chimie dans tout ça si tu veux t'en sortir. Comme on a eu pendant longtemps aussi des conseils auprès des agriculteurs pour leur dire il faut que tu t'agrandisses, il faut que tu investisses.
Il faut que tu t'endettes.
Il faut que tu t'endettes. C'était des filiales de banque qui faisaient ça. Donc on a quand même tout un système qui a embarqué des gens dans une direction. Certains s'en sortent, mais ils ne sont pas nombreux. Le Rousseau, il s'en sort, le patron de la FNSEA. Mais il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. Et puis ceux qui s'en sortent, bah, ils deviennent de plus en plus forts, de plus en plus gros. Et ils dirigent leurs exploitations pas vraiment sur un tracteur ou les mains dans la terre, hein, plutôt à partir d'un ordinateur. On n'est pas loin de ça. Et à l'inverse, il y en a 20% des paysans aujourd'hui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Se casse la figure. Ce système d'endettement, ils ne peuvent pas y aller. Ou alors ils sont endettés et ils ne s'en sortent pas. Derrière, il y a un vrai sujet sur les revenus agricoles. De texte en texte, ce sujet est ignoré. Soi-disant, si on veut faciliter la vie des agriculteurs, il faudrait s'attaquer à la question des revenus. Ce n'est pas du tout ce qui est fait dans ce texte une nouvelle fois. On y met fin de la séparation du conseil et de la vente, on y met le retour du cétamipride, donc un néonicotinoïde tueur d'abeilles, parce qu'il y a des problèmes, notamment pour les betteraves. Sauf que ce type de pratique culturelle va devoir évoluer. on mange trop de sucre, par exemple. Donc, du coup, est-ce qu'on a besoin d'autant de cultures de betteraves? Non, il va falloir réorienter, diversifier, faire en sorte qu'on ait moins besoin, du coup, de ce type de culture-là. C'est pas du jour au lendemain, mais il faut le faire, sinon on va pas s'en sortir. Et ben là, non, on veut se maintenir. Donc, du coup, on y va, on revient en arrière sur les néonicotinoïdes. Avec pour argument que la France serait la seule à le faire et que, du coup, les autres pays européens le font pas. Donc, revenons en arrière. Mais quand on fait ça, une fois qu'on va revenir devant les autres pays européens un jour pour dire qu'il faudrait supprimer, plus personne ne va vouloir supprimer. On va dire, attendez, vous venez de revenir en arrière, vous voulez nous expliquer qu'il faut... Donc, on fait s'affaisser la dynamique européenne et collective de progrès écologique. On n'ira plus jamais à l'interdiction de ce néonicotinoïde. Et puis, dans le texte de loi, c'est effectivement la facilitation des mégabassines, des retenues d'eau. Ce n'est pas la retenue de l'eau pluviale.
Ils vident les nappes phréatiques.
Là, ce n'est pas l'eau qui coule des collines et qu'on récupère ces mégabassines. On pompe l'eau dans les nappes phréatiques. Alors, l'argument, c'est de dire, on le fait l'hiver. Comme ça, il y a de l'eau et puis on la relibère l'été. Ouais, sauf qu'à force de faire ça, il n'y en a plus l'hiver non plus. Et puis surtout, on l'a pourri cette flotte parce que, évidemment, ce sont les grands exploitants, les céréaliers qui ont besoin de flotte majoritairement. Tout le monde a besoin d'eau, mais eux, on a besoin de beaucoup. Et donc, c'est une poignée qui, en plus, abîme cette eau remplie de pesticides, qui repart donc dans les nappes pour ce qui repart avec une part seulement parce que le reste s'évapore. On la retrouve dans le cycle de l'eau. Évidemment, l'eau, il y a toujours la même quantité, sauf qu'il n'y a plus la même quantité disponible pour l'agriculture. Et donc, c'est de l'eau de mauvaise qualité pour une poignée d'irrigants. Parce que tous les autres, eux, par contre, devront se priver d'eau. S'il y en a qui s'accaparent l'eau, les autres n'auront pas accès à l'eau. Et bien là, dans cette loi, effectivement, facilitation, parce que quand même, il faut en finir avec ces empêcheurs de tourner en rond que sont ces éco-terroristes. C'est aussi des sanctions plus fortes à ceux qui s'opposeraient à ces projets-là. C'était aussi, on s'attaque dans ce texte à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la santé, qui se préoccupe de la santé environnement, qui se préoccupe de nos vies, du vivant. On faisait perdre à l'ANSES toute autorité. D'ailleurs, il y a eu d'autres propositions sur un autre texte de loi dans le même temps pour supprimer l'ANSES. Puis il y avait aussi dans ce texte la volonté de mettre au pas l'Office français de la biodiversité. Ils en rêvent de supprimer la dimension de police de l'environnement dont dispose l'OFB. En disant c'est les gendarmes qui vont s'occuper de ça. Mais ce n'est pas leur métier. Là, c'est des gens qui sont des spécialistes de la question environnementale, écologique, de toutes les questions qui y sont associées. Et ils ont un pouvoir de police. Mais en fait, en vrai, ils ont un pouvoir de police parce qu'il y a plein de gens qui contournent les règles. On a des eaux de surface dans un état déplorable. En Pays de la Loire, ils ont voté un vœu unanime au département pour dire stop, il n'y a plus d'eau de qualité dans notre département, c'est une catastrophe. Ils ont des cancers pédiatriques là-bas. C'est pas possible de continuer dans ce sens-là. Alors, qu'on veuille soutenir les agriculteurs et les paysans et les sortir pour une partie de la situation dans laquelle ils sont, oui, de toute évidence. Mais les sujets les plus importants pour eux, ce n'est pas ceux qui sont mis sur la table. Ça, c'est pour une poignée, c'est pour des intérêts particuliers, ce n'est pas pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, la question des revenus agricoles, oui, ça, c'est fondamental. Pour l'intérêt général, l'accompagnement vers l'agroécologie, oui, ça, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, se battre pour que les normes progressent collectivement en Europe et ailleurs, ça oui, pour ne pas s'embarquer dans des accords bilatéraux avec d'autres pays qui tirent vers le bas les règles du jeu social, les règles du jeu écologique. Et voilà, c'est ça l'ambition. Et sauf qu'on semble avoir abandonné avec ça. On est dans un moment où on se dit finalement, il y a de la concurrence, donc il faut qu'on abaisse nos protections. D'ailleurs, le mot norme, je pense qu'il faut le remplacer par protection. La norme, c'est le truc qui est là pour nous emmerder. Quand on dit que c'est des protections, parce que ce sont des protections, on perd des protections sociales, on perd des protections écologiques. C'est dramatique ce type de texte de loi. Et effectivement, il y a eu un coup antidémocratique. Le texte a été au Sénat, il a été voté au Sénat, il arrive à l'Assemblée nationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une loi soit adoptée, il faut qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et que c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Si le texte commence au Sénat, il passe à l'Assemblée nationale. Et si on a une version conforme à l'Assemblée nationale, alors il est adopté. Si il commence à l'Assemblée nationale, il part au Sénat. S'ils ont une version conforme, ça revient à l'Assemblée nationale. Et si de nouveau, il y a une version conforme, alors c'est adopté. Mais c'est toujours à la fin, ça finit à l'Assemblée nationale. Souvent, ce qu'utilise le gouvernement, et tout le temps d'ailleurs, c'est des procédures accélérées. C'est-à-dire qu'il y a une seule navette. Et après, le gouvernement peut, en toute situation, convoquer une commission mixte paritaire pour trouver la même version de texte. C'est 7 sénateurs et 7 députés, plus leurs suppléants, qui vont discuter ensemble d'une version pour essayer de tomber d'accord. S'ils tombent d'accord sur une version, la version est soumise au vote solennel du Sénat, au vote solennel de l'Assemblée nationale, et le texte est adopté définitivement. Donc là, qu'est-ce qui se passait? On en était au moment des débats à l'Assemblée nationale. On avait déposé beaucoup d'amendements. On nous a accusés d'obstruction. On a déposé beaucoup moins que la droite et l'extrême droite en a déposé sur la fin de vie, par exemple. Alors que là aussi, il fallait que ça avance. Voilà. Mon groupe a déposé 800 amendements. ce qui fait à peu près une quarantaine par député. En fait, sur un texte avec autant d'articles, c'est normal d'avoir une quarantaine d'amendements par personne. Donc, c'est rien de fou. Nous, il n'y avait pas d'amendement délirant. Ils ont joué, ils ont laissé entendre qu'on mettait n'importe quoi dedans. Ce n'est pas vrai. Après, à quelques endroits, on fait des amendements, puis des amendements de repli. Par exemple, on pose une limite en chiffres. Auquel cas, on peut décliner le chiffre en plusieurs amendements pour avoir plusieurs fois l'occasion d'en débattre. On a changé les dates de mise en application, des choses comme ça. Mais c'est du repli. C'est parce qu'on sait qu'on va, on risque de perdre. Donc, on propose quelque chose qui est de l'ordre du compromis. Donc, en fait, rien de délirant. Mais surtout, au moment où on arrive... que ce texte doit arriver, le porteur du texte, l'auteur de la loi, a utilisé un truc, on n'avait jamais vu ça dans la Ve République, il a fait voter une motion de rejet de son propre texte. C'est-à-dire qu'en gros, il dépose une loi, au Sénat, elle était débattue. Là, à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a repris ce texte, Julien Dive, des Républicains. Il a déposé le texte, il a été débattu en commission, et quand il est arrivé dans l'hémicycle, eh ben, lui, il s'est dit, oh là là, ça ne va pas bien se passer le débat, il y a beaucoup d'amendements, mais c'est surtout qu'il ne voulait pas parler de cancer dans l'hémicycle. Et donc, du coup, ils ont déposé une motion de rejet. Et quand il y a une motion de rejet, bah le texte n'est pas débattu. S'il a déjà commencé sa navette, eh ben on va directement à la 15 commission mixte paritaire dont je vous ai parlé juste avant. Et donc là, c'est ce qui s'est passé.
Mais c'est une basse manœuvre.
C'est une très basse manœuvre. C'est un 49-3 déguisé. C'est-à-dire, je rejette mon propre texte pour éviter un débat.
Et ça, c'est important. Une malhonnêteté intellectuelle.
Mais la plus grande des malhonnêtetés, je crois, a été, c'est que le matin, quand les présidents de groupe se sont réunis, mon groupe... La France Insoumise, qui avait déposé aussi beaucoup d'amendements, était prête à suivre. On a dit, on est d'accord pour qu'il y ait un temps législatif programmé, on donne un temps maximum de durée du débat et on ne peut pas le dépasser. Donc c'est réparti à la proportionnelle des groupes pour pas que ça dure trop longtemps. Et on a dit, on est prêt à retirer nos amendements, mais à une condition, vous retirez aussi les vôtres. Ils n'ont pas voulu retirer leurs amendements, donc on n'a pas retiré les nôtres, et ils nous ont accusés de faire ce coup-là parce qu'on aurait fait de l'obstruction. Ce qu'ils voulaient, c'est éviter le débat. Sinon, ils auraient accepté qu'on retire nos amendements et on aurait eu le débat. Et il aurait duré 4-5 jours, comme c'était initialement prévu. Et c'est pas fou sur un texte comme ça que ça puisse durer comme ça. Mais il ne voulait pas. C'est pas simple d'aller débattre devant les Françaises et les Français de bah, « on fait revenir un tueur d'abeilles ». Parce que là, nous, on a des gens qui maîtrisent aussi sur le bout des doigts ces sujets. Delphine Bateau, Benoît Biteau. On était prêts à mener la bataille. Et peut-être que des gens auraient flanché aussi. Voilà. Ils n'ont pas voulu ça. Donc maintenant, ça va discuter le 30 juin. C'est 7 sénateurs, c'est 7 députés pour essayer de se mettre d'accord. Ils ont mis ça le plus loin possible. Hein. Plus on se rapproche de l'été, moins ça fera du bruit. Nous, on va attaquer ce texte au Conseil constitutionnel, je le dis d'avance. Hein. Et qu'on arrivera à faire sauter plein de dispositions. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas d'étude des effets de ce qui est posé. Normalement, quand il y a un texte de loi qui vient du gouvernement, il doit faire une étude d'impact. Mais là, comme ça ne vient pas du gouvernement, mais avec l'accord de la ministre, eh ben, on y va comme ça, sur des décisions quand même majeures, sans étude d'impact. C'est pas sérieux. Ça devrait même pas exister qu'on puisse faire ça. Parce que là, c'est le gouvernement, ce qu'il n'arrive pas à faire. Il passe d'abord par le Sénat, qui fait des trucs dégueulasses. Ça arrive en plus après à l'Assemblée nationale. Puis à la fin, bah, on trouve un compromis qui est un peu moins dégueulasse que ce qu'on aurait pu avoir à la fin. Mais c'est quand même dégueulasse. On voit ça sur plusieurs textes. Et c'est la même méthode. Ils font plus des textes gouvernementaux. Ça part d'abord du Sénat, donc ça se droitise bien. Ça arrive à l'Assemblée... Et puis le centre, la droite, l'extrême droite vote, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Donc là, mais c'est devenu n'importe quoi.
Là, on a un gouvernement qui vote une loi qui maintient le cancer dans les assiettes.
Bah ouais, ouais, clairement, moi je peux le dire comme ça. Et puis qui ne se préoccupe pas de la question du partage de l'eau. Voilà. Alors, dans le gouvernement, ils ne sont pas tous OK là-dessus. Entre eux, il y a des grosses, grosses tensions. J'espère que certains, d'ailleurs, en tireront les enseignements et en se barrant. Moi, je vais être associé dans un comité de pilotage, là, par la ministre Pannier-Runacher, sur les conférences de l'eau. Au moins, ça a le mérite de dire qu'il faut discuter du partage de l'eau. Là, on ne répond pas. On dit nous, on s'accapare. En plus, on paye moins que les autres. C'est quand même toi et moi qui payons plus l'eau que les agriculteurs. Hein.
Parce que ton collègue Benoît Biteau disait, en plus, qu'elle insulte à cette écrasante partie de la population agricole qui ne recourt pas à l'irrigation.
Mais non, mais des exploitations de plus en plus grandes, de moins en moins d'agriculteurs, c'est une catastrophe. Il y a eu un plan social absolument faramineux dans le champ de l'agriculture. Et à côté, une agriculture paysanne qui tente de survivre avec des petits paysans.
Qu'on empêche d'émerger, parce que c'est quasiment impossible de toucher de la terre quand tu es jeune agriculteur.
Il y a des dotations pour ça, mais c'est vrai que si tu n'as pas la capacité à investir un peu massivement, tu te retrouves en difficulté. Mais il y a quand même des modèles qui s'inventent qui sont absolument super, mais pas assez soutenus. La ferme de Belêtre à Dolus-le-Sec.
En Indre-et-Loire.
C'est une SCOP, agricole. C'est-à-dire que la terre appartient à personne, mais il y a un ticket d'entrée pour rentrer dans la SCOP pour pouvoir accéder à la terre. Il y a des formules comme les espaces tests agricoles qui permettent là aussi d'avoir de la terre qui est mise à disposition pour que quelqu'un teste son activité avant de pouvoir s'installer. Donc il y a des voies en plus. On en a. Terre de lien, qui a une foncière qui permet justement à des paysans d'accéder à la terre. Des voies, pour faire autrement, il y en a. Mais il n'y a pas la volonté politique. Et la loi d'orientation agricole qui a été adoptée il n'y a pas longtemps, qui devait assurer le renouvellement des générations d'agriculteurs. On a un énorme problème. La moitié des agriculteurs vont partir en retraite. On va se retrouver dans une situation dramatique. Donc on avait fait inscrire dans la loi, c'était la seule petite victoire, qu'il fallait accueillir 30% d'élèves en plus dans l'enseignement agricole. 30% d'élèves en plus, bah, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? De couper les moyens des enseignants? Parce qu'ils se font couper 45 postes au niveau national dans l'enseignement agricole. Alors que dans la loi, on a écrit qu'il fallait 30% d'élèves en plus. Ils sont en train de sacrifier l'agriculture pour une petite poignée. Et en se nourrissant des colères, pour partie légitime, d'une part d'agriculteurs qui ne s'en sortent pas, qui ont l'impression, effectivement, parce que c'est ce qu'on leur dit et ce qu'ils voient, que les concurrences sont déloyales. On leur dit c'est la faute des écolos. D'ailleurs, on ne gouverne pas, je le rappelle hein, quand même. Nous, on n'est pas au pouvoir. Ce qui se joue dans cette affaire-là, c'est la décrédibilisation de la question écologique par celles et ceux qui ne veulent rien changer à leur business. Il ne faut pas qu'on soit embêté par des règles du jeu qui nous obligeraient à progresser. Je le dis, les premières victimes de ça sont les agriculteurs. Comme dans les usines, la présence des toxiques, des polluants éternels, ce sont les salariés. Il y a un truc qui est fou là, c'est qu'il y a toute une ambiance. Ils arrivent à fédérer contre l'écologie plutôt que de fédérer pour l'agriculture. Parce que si on fédère pour l'agriculture, alors on prend en considération l'état dramatique des sols. Un sol, c'est vivant. Ces sols, ils sont abîmés, ils sont lessivés. Ils prennent le risque qu'on ait des problématiques d'accès à l'eau absolument dingues pour tout le monde. Pour le maraîcher, les maraîchers, ils ont besoin d'eau. En agriculture, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Mais par contre, la quantité d'eau utilisée pour faire du maïs qui va être exporté pour nourrir des animaux qui vont peut-être nous revenir en barquette par ici après avoir fait 3000 km, on marche sur la tête. Le système ne peut pas être celui-là. Les Duplon et compagnie se nourrissent de ce que disent ces exploitants, qui pour une partie d'entre eux galèrent, mais ne s'attaquent pas au vrai sujet, qu'est est-ce qu'ils peuvent vivre dignement de leur métier sans avoir le sentiment par ailleurs de participer à abîmer la santé. Tant qu'on ne se sera pas un peu mis d'accord là-dessus et qu'on les accompagnera pas massivement pour changer de cap, bah on a le risque que tout le monde dise « Oh là là, moi je change de cap si j'arrive à m'en sortir, sinon je ne change pas de cap ». C'est ça le moment dans lequel on est aussi. Hein, voilà. Et donc il y a une bonne part d'agriculteurs sincères, voilà, mais quand tout autour d'eux, tout ce qu'on leur a toujours dit, le conseil des banques, le conseil des coopératives, c'est pour leur dire « voilà, tu ne peux t'en sortir que dans cette façon de faire ». Alors qu'on sait qu'il y a d'autres modèles qui existent. Et d'ailleurs, ils existent ailleurs dans le monde, ils existent dans notre pays. À Chizet, le CNRS, depuis des années, fait un test agricole en supprimant progressivement les intrants chimiques. Et ils arrivent à des niveaux de rendement absolument bons. Par ailleurs, la recherche, elle travaille là-dessus. Sur les insecticides, par exemple, qui sont utilisés. En Italie, c'est du côté de Venise, ils ont mis en place un système sur le maïs. Plutôt que de pulvériser toute la surface, vous allez arrêter de pulvériser, ce qui vous coûte 40 € à peu près à l'hectare. Par contre, une part de ces 40 € vont être mis dans un fonds commun pour une assurance commune si jamais il y a une attaque des surfaces par les petites bêtes. Ils ont démontré que à peine 4% des surfaces étaient attaquées et que pour 4% des surfaces, on arrosait toute la surface. Plutôt que de faire ça, on vous garantit que si vous avez une attaque sur 4% de votre surface, vous serez remboursé. Une assurance qui va fonctionner. Ça change tout. Plutôt que d'agir négativement sur la biodiversité en faisant ça, sur les sols, et ben là, on protège le vivant. Et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus d'attaques que ça. Ça mérite quand même d'être réfléchi tout ça. Il y a des tas de techniques qui sont connues, l'agroforesterie, enfin bref. Des voies, il y en a plein. Moi, je ne dis pas que tout est abouti, mais c'est là-dedans qu'il faut investir à fond pour donner envie à des tas de jeunes de s'installer. Parce que là, ça va être ça le sujet aussi. Est-ce qu'il y aura des paysans qui ont envie de reprendre ces exploitations dingues avec des sols fatigués, malades, dans des systèmes qui ne payent pas? Ça va être un vrai sujet.
Et voilà les amis pour cette dernière nouvelle du front de cette guerre macronienne contre le vivant, la raison et le peuple. Émission à télécharger sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com, avant qu'on se retrouve sur votre radio libre préférée. ce n'est qu'un combat. Continuons le début. No Basaran.